happy.
Good morning.
Really happy.
Good morning.
Be with you. Be with you. Be with you.
Happy.
Really happy.
Be
with you. Bienvenue au NFT Morning. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 avril et nous sommes ensemble pour une room avec mon cher Rem. Salut Rem, ça va ?
Salut, bonjour à tous. Salut John.
Alors Rem, aujourd'hui, c'est une room surprise. Et quand on dit room surprise, souvent, c'est qu'on n'avait pas tout préparé ou qu'on avait prévu quelque chose, mais qu'on avait mal prévu ou que notre invité était peut-être là, mais qu'on n'était pas certain. Et donc, face à tout ça, on se retrouve tous les deux avec notre café en se disant, bah tiens, on va discuter comme si on était au café. Et donc, c'est ça aussi le NFT Morning, c'est des rooms le matin où on a des thématiques. Et bon, une de nos thématiques assez facile, on va dire, quand justement on ne sait pas de quoi parler, eh bien on parle d'artistes. Parce que ça reste quelque chose qu'on suit, qu'on est venu dans ce space en grande partie pour ça. Et donc, même si c'est vrai que l'actualité en ce moment est faite de Bitcoin, est faite de Memecoin sur Solana ou sur Base, est faite de Farcaster et autres Runestone, eh bien, déjà, on peut retrouver pas mal d'artistes dans ces catégories-là. Mais au-delà de ça, même dans l'univers classique du monde Ethereum, même si, d'après la publication de Beeple hier, qui fait résonance avec notre room de vendredi dernier, les NFT sur Ethereum sont morts et enterrés de leur belle vie, eh bien, nous, on a des convictions. Et nos convictions, quand même, se portent sur les artistes. Donc, Rem.
Ouais.
Mon cher Rem. Ça va ?
Bah ouais, voilà. Effectivement, une room sur les artistes. Ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'a pas discuté de ça, toi et moi.
Eh ben voilà. Alors, dis-moi, Rem, est-ce que toi, déjà, même si ce n'est pas dans la fraîcheur de l'actualité, t'as un artiste dont tu voudrais parler, un mouvement, un style, une chose qu'on n'a peut-être pas assez évoqué au NFT Morning.
Eh ben, écoute, maintenant que... Vu que c'est une room un peu improvisée, justement, les quelques minutes qu'on a eues là d'introduction, j'ai un peu réfléchi.
T'ont permis de réfléchir.
Ouais, exactement. Et en fait, j'aimerais revenir sur un artiste qu'on a reçu
ouais.
il y a 3-4 mois. C'est Marco, alias MCSK.
Ouais.
Et j'adore sa démarche, j'adore le style, et j'adore ce passage de... Enfin, ce pont qu'il est en train de tisser entre l'art traditionnel, l'art classique même, et l'art digital. Et donc voilà, et j'ai l'impression qu'il y a, c'est un truc à creuser, quoi, dans ce domaine-là, tu vois, ce lien entre les deux. Ouais.
D'accord. Alors, en effet, pour rappel, alors, c'est un artiste qui est intéressant parce que donc c'est Marco Conti, si je ne me trompe pas. Donc, en effet, sur Twitter, c'est MCSK, je repartage son profil, qui est un artiste... en fait, c'est un artiste assez... en fait, c'est vrai que... C'est, en fait, déjà, il y a une démarche. Il a une démarche qui est assez proche de beaucoup d'artistes qui se placent sur du long terme. Je pense que c'est intéressant, d'ailleurs, cette pensée-là, même si... il faut pouvoir se la permettre. Elle présente beaucoup de complexité et elle n'est pas forcément évidente. Mais tu vas retrouver un point commun entre des artistes qui sont très cotés aujourd'hui, que ça soit évidemment Sam Spratt, que ça soit Opérateur, que ça soit là, il y en a d'autres sûrement, là, voilà. Mais en fait, c'est des artistes qui ont pas surfé comme des petits fous la vague de 2021. Construit leur narratif avant de construire leur vente. Et donc, c'est vrai que c'est une approche. En fait, c'est un petit peu l'approche Beaux-Arts, quoi, si tu veux. Et moi, c'est un point commun que je retrouve chez pas mal d'artistes, si tu veux, qui ont vraiment étudié l'art, qui ont étudié les Beaux-Arts. Alors, je sais pas du tout, hein, j'y connais rien et j'ai pas suivi ça. Mais tu as, en fait, j'ai le sentiment que tu as un peu ce travail que va faire aussi peut-être un agent, une galerie, de travailler ton narratif, ta rareté, ta cote, ta relation avec les collectionneurs pour créer quelque chose où finalement...
Alors John, tu vois, je t'écoute et en fait, je l'ai notre thème du jour. En fait, je pense que c'est peut-être même un débat, tu vois. C'est est-ce que l'art digital, l'art crypto, l'art NFT, on ne sait toujours pas comment on doit l'appeler, mais bon, va survivre en fait au phénomène memecoin, au phénomène à la spéculation sans limite qu'il y a aujourd'hui. Et alors, et c'est très marrant parce que tu as dû voir ça en fait, les blagues poisson d'avril de pas mal d'artistes, style Trevor Jones ou Pascal Boyard, où en fait ils disaient que voilà, trop de spéculation, qu'ils en avaient marre, qu'ils arrêtaient le Web 3 pour aller dans le Web 2, pour retourner dans le Web 2. Et en fait, c'était très bien fait parce que y a pas mal de raisons qui pourraient les pousser finalement à effectivement arrêter, tu vois.
Ouais. Ouais, ouais. Alors moi, je ne sais pas si c'est un vrai débat, parce que tu vois, déjà j'étais en pleine théorie, tu m'as interrompu déjà, tu vois, j'étais bien, j'étais parti, là, tu vois, c'était chaud, et là tu m'as dit, non, mais laisse tomber ce que tu racontes, alors que, en plus, c'est toi, tu m'as donné un artiste, elle est racontée toute une histoire, elle a dit, non, mais laisse tomber, non, mais ça, c'est pas intéressant, bon, pour finir ce que je disais, puis après on va revenir dessus, mais juste voilà. En tout cas, je disais, il y a des artistes qui construisent leur narratif et finalement les ventes vont être la résultante du narratif et non le contraire. Et c'est vrai que tu as un peu d'idéologie dans le Web3. Je ne sais pas si c'est une idée ou une idéologie qui est forte et qui est... En tout cas, pour l'instant, le marché ne lui donne pas raison. Mais cette idée qu'on a retrouvée peut-être dans l'univers Tezos, par exemple, qu'on retrouvait chez Pac, c'était que le bon vieux one-one de l'artiste, ou on va dire la petite édition très limitée en 5, en 10 exemplaires, eh ben, ce n'était pas une finalité. Que finalement, on pouvait faire de l'art ultra accessible pour 1 euro, pour 10 euros, faire des éditions avec des très grosses quantités et en faisant quelque chose du coup de plus inclusif sans diluer la valeur de l'artiste, sans diluer la cote de l'artiste et même au contraire, un peu une idée qu'on a, hein, que je trouve super intéressante, même si dans les faits, elle n'est pas encore complètement validée par le marché, qui est de se dire, c'est ça la révolution aussi numérique, c'est que plus tu as de propriétaires, plus ta popularité augmente, plus finalement, d'une certaine manière, ta cote augmente, ta valeur augmente. Ce qui est une autre théorie économique, en fait, par rapport à, on va dire, au mode traditionnel, justement, qui est je travaille mon narratif, je travaille ma rareté, je travaille ce que je fais, puis une fois par an, je tire le trait, hein, mais je prends l'exemple de Sam Spratt ou même d'opérateur, justement, une fois de temps en temps, voilà, j'apparais, et là, il se passe quelque chose, et là, c'est le big badaboom, Et puis ensuite, je retravaille sur la visibilité de l'œuvre que j'ai lancée. Tu vois, enfin, Sam Spratt, c'est le bon exemple. Il a créé son premier cercle. En fait, il a fait quelques ventes clés. Il a un peu limite sélectionné ses collectionneurs avec Cosomo, 6529 ou autres. Il a commencé à créer son conseil avec ses Skulls pour avoir, je ne sais même plus c'est quoi les chiffres, si c'est 50 ou autres, mais des sortes de collectionneurs clés, un peu conseillers qui l'accompagnent, en faisant d'ailleurs, en vendant certains, mais en donnant aussi beaucoup pour inclure un maximum de monde. Et puis, voilà, il a commencé à se faire exposer, à être présenté, voilà, juste à travailler sur les premières œuvres qu'il avait faites. Et puis, bon, il a sorti son Monument Game qui représentait un certain nombre de temps de travail et il a rien fait depuis et qui continue d'exposer, qui va aller montrer à la Biennale à Venise en avril prochain. Et voilà, qu'il est pas, enfin, son moment pour l'instant, il va sûrement se développer encore, mais il s'inscrit sur la durée. Opérateurs, elles ont opéré pendant des années sans même faire un seul drop. Elles ont fait beaucoup de rendez-vous avec des collectionneurs, des happenings, différentes choses, pour commencer à créer des clés qui étaient les neuf détenteurs des clés, qui étaient un peu des grands conseillers ou quelque chose comme ça, avant voilà, d'arriver, de faire un drop un peu plus ouvert avec une dizaine de pièces, puis enfin faire leur drop sur Artblocks qu'elles ont fait l'année dernière, qui était un succès monumental et qui les a fait rentrer un peu dans les, on va dire, en tout cas, parmi les artistes les plus reconnus du space, tu vois. Et donc, pour revenir à Marco, qui était ton point de départ, mon cher Rem, eh bien, il s'inscrit dans cette logique, si tu veux. Ça veut dire, est-ce que il essaie de construire ce même type de narrative, de créer son conseil un petit peu, d'avoir son. Tu vois, il drop une fois par mois ou une fois tous les 2 mois une nouvelle œuvre qui d'ailleurs, est très vite prise à chaque fois ou très vite spotée par un collectionneur. Donc c'est une démarche, on va dire, en tout cas qui est intéressante, mais qui est à l'opposé de ce qu'a pu faire un Pac, justement, ou même un Jack Butcher à sa manière, ou même justement tout ce qui se faisait sur Tezos, qui était plutôt de la logique de n'importe qui peut collectionner une de tes pièces pour un tout petit montant. Et bouleverser un peu le modèle économique de l'art. Tu vois ce que je veux dire?
Yes.
Ça te plaît pas ce thème-là? Non, c'est pas ça qui est intéressant. Écoute.
Oui, non, mais c'est intéressant. Mais en fait, justement, ça va tellement à contre-courant, ça va à l'opposé finalement de ce à quoi on assiste aujourd'hui. En fait, tu vois, là, c'est des gens qui prennent leur temps, qui diffusent très peu d'art au compte-gouttes. Bon, voilà, tout ce que tu as expliqué avant. Et on est clairement dans une démarche à l'opposé de ce qu'attendent finalement peut-être les gens qui sont sur ce marché-là.
Non, mais après, c'est lié un peu à la thématique, en fait. Ça veut dire que on est certain, et je ne remets pas en question, évidemment, le modèle, justement, enfin, le modèle qu'on est en train de définir, dont on est en train de parler, et celui qui marche aujourd'hui sur du long terme, il est bien, il est génial, il est puissant, mais il se rapproche du modèle, justement, qu'on connaît déjà dans l'art contemporain, ou de l'art traditionnel. C'est vrai que le modèle plus, on va dire, je vais appeler ça tokenisé, se veut, voilà, est censé apporter autre chose. Mais là où tu as raison, Rem, c'est qu'à la fin de l'histoire, le modèle tokenisé, Pax, c'est le meilleur exemple. En fait, en 2021, l'art est devenu un token de spéculation. C'est-à-dire que tu parles de cet univers de memecoin dont tout le monde se plaint. Mais en fait, ce dont on se plaint vraiment, Rem, c'est que ce n'est pas nous les memecoins. C'est ça le vrai truc. C'est qu'au final, on était quand même bien content, en tant qu'artiste ou collectionneur d'art, eh ben, d'avoir toute une bande de spéculateurs qui considéraient Pac comme un asset financier plutôt comme un artiste. Ou qui considéraient Robbie Barat, quand on avait reçu Robbie Barat, c'est un peu ce qu'il disait, ce qu'il avait un peu dégoûté lui en tant qu'artiste pour le coup. Il disait, oui, il parlait plus du Robbie Barat, du nom de mon œuvre ou de la technique, il parlait juste du numéro, du fait que c'est un Genesis et de la valeur spéculative qu'il avait. Donc, si tu veux, c'est juste que, en fait, je pense que le fond de l'histoire, c'est qu'il y a eu un moment de spéculation sur l'art en 2021. On l'a vu, les art blogs, c'était le pire et le meilleur. C'est-à-dire que c'était des biens tellement liquides. En fait, on a créé un marché traditionnel qui est le marché de l'art, qui est censé être un marché illiquide. On a réussi à le rendre liquide. Et en le rendant liquide, on l'a rendu spéculatif. Et en le rendant spéculatif, dans l'univers des cryptos, bah, y a eu l'hyperbole spéculative cryptographique qui a fait que beaucoup de gens se sont mis dessus. Mais en fait, voilà, cette hyperbole spéculative, bah, elle s'est portée sur les PFP, certes, mais aussi sur l'art. Et donc, c'était simplement le narratif du moment. Donc, en 2017, tu avais les ICO, en 2021, les PFP, l'art, maintenant, tu as les meme coins et tout ça qui va avec. En fait, ça ne veut pas dire que l'ICO, d'ailleurs, est une mauvaise chose. Encore aujourd'hui, tu as des gens, alors ça ne s'appelle plus forcément des ICO, ça s'appelle des IDO, ça s'appelle des je ne sais pas quoi, mais tu as toujours des gens qui créent, qui font des levées, qui émettent des tokens. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça ne veut pas dire que c'est une chose qui n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas tout le monde qui s'excite dès qu'une start-up se crée avec un concept sur la blockchain. Pour les PFP, c'est pareil, tu auras encore des PFP. Et puis l'art, a fortiori, l'art va continuer d'exister, et puis l'art va continuer de se développer. Et tu peux être certain que dans 20 ans, une fois que tout le bruit, parce que c'est un peu d'ailleurs ce dont on parlait aussi avec Robert Alice quand on l'a reçu la semaine dernière, qui est un mec super intéressant, lui il te dit, j'essaie de retirer ce qui va rester après le bruit. Et là, on est dans le bruit, en fait. Et le bruit, c'est bien. Mais finalement, le bruit, en fait, si tu n'étais pas connecté tous les jours sur Twitter et que tu ne voyais pas des meme coins qui font des fois 1000 et que tu ne voyais pas des gens qui disaient « j'ai fait tous ces profits » et que tu ne voyais pas tout ce qui se passait, mais que tu aurais juste tes petites pièces d'art dont tu serais content, qui est un peu le point de départ de ce qu'on définit un peu au NFT Morning, achète des pièces qui te plaisent et sois satisfait de les avoir. Tu ne serais pas dans ce bruit Twitter. Tu serais relativement... positif sur le fait que ça fonctionne pas trop mal. Je dis pas que ça fonctionne pas trop bien, mais en tout cas, tu as certains artistes qui font des carrières pas trop mal, tu en as d'autres, c'est plus difficile, mais je pense que c'est assez similaire au monde de l'art classique. Et donc finalement, oui, quand tu achètes une pièce d'un artiste, elle fait pas x2 en 2 mois. Mais je pense que c'est peut-être ça la norme, quoi, tout simplement, Rem.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Non, ouais, ouais. Je suis pas convaincu par tout ce que tu viens de me dire. Mais
t'es pas convaincu?
Non.
Bah vas-y, contre-argumente alors.
Non, tu vois, le... tant qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, on associera finalement... l'art en NFT, donc l'art digital, etc., sur la blockchain et à la crypto-monnaie, à la spéculation et tout, et que 95% des acheteurs de cet art-là seront finalement les mêmes personnes qui spéculent sur les mêmes coins, ça, on n'avancera pas en fait. Et cet art-là ne sera pas reconnu à sa juste valeur.
Ouais. Bon, là, je ne suis pas convaincu, tu vois. la reconnaissance, déjà, c'est par qui?
La reconnaissance, justement, par les gens qui ne sont pas de cet univers-là, quoi.
Ouais, mais moi, je pense qu'il faut arrêter de penser ce truc de cet univers-là, pas cet univers-là. Les institutions, en fait, le meilleur moyen, si tu veux... En fait, moi, je suis intimement persuadé que les institutions suivent les mouvements de société. Point final. Ça veut dire que, évidemment, tu vas aller les convaincre, évidemment, mais c'est pas parce que tu vas te mettre un costard cravate que d'un coup tu vas rentrer. Tu es comme tu es et tu avances comme tu avances. Ça se fait petit à petit. Et moi, je vais te dire un truc, même les meme coins. il ne faut pas se boucher le nez en parlant, parce que c'est un aspect culturel, c'est un marqueur culturel fort. Comme je le disais sur les PFP à un moment T, c'est un marqueur culturel fort. Et ça mélange, malgré tout, derrière beaucoup de Memecoin, t'as des artistes. On en a ici, d'ailleurs. Et derrière ce phénomène Memecoin, t'as un phénomène culturel qui est la culture même. T'as un phénomène financier qui est une nouvelle mode de finance, qui est un nouveau mode de finance qui est plus, malgré tout, plus casino, certes, mais peut-être plus accessible. Et puis, si tu veux, tu peux pas lutter contre des mouvements. Moi, je suis persuadé que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de gens qui, dans des années, auront plus tendance à acheter un PP qu'à acheter peut-être une action ArcelorMittal, quoi. Et j'ai envie de te dire, avec tous les risques que ça comporte.
Et tu trouves ça normal, en fait?
En fait, j'ai pas de jugement. Enfin, moi, j'ai aucun jugement de valeur à faire là-dessus. Enfin, moi, je préfère acheter un PP que du ArcelorMittal, personnellement, déjà. Mais au-delà de ça, je pense que c'est... chacun a ses marqueurs culturels, chacun a ses affinités. Si tu achètes du ArcelorMittal, c'est parce que, d'une certaine manière, tu adhères, tu respectes.
Je pense pas que tu aies choisi la société la plus... bon, bref.
La quoi? Bah, j'ai fait exprès. Je vais pas choisir Tesla. Non, mais tu vois, et pourquoi PP serait moins respectable qu'ArcelorMittal, quoi? Je sais même pas si ça existe encore, ArcelorMittal.
C'est une très bonne question.
Non, mais en fait, pourquoi pas? Est-ce que c'est mal? Enfin, en quoi c'est mal, en fait? En quoi c'est moins sérieux? Je pense vraiment que beaucoup, beaucoup de gens qui accèdent à la bourse, ils se basent sur des analyses. Enfin bon, je veux pas refaire l'histoire de la finance, tu vois. Mais c'est un peu aussi, malgré tout, un dérivé de l'histoire du Bitcoin. C'est un dérivé de l'histoire du Bitcoin. C'est, à un moment donné, quelque chose qui potentiellement repose sur rien, mais il y a assez de personnes pour y croire, pour en faire une réalité. Et pourquoi pas? Et oui, évidemment, 99,9% de tous ces mêmes coins vont aller à zéro. Évidemment. Je pense que ça fait partie, des choses que les gens savent. Mais à la limite, le même coin n'a pas la prétention de te mentir sur la marchandise. Tu sais ce que tu fais.
Ouais, mais alors attends, quand tu dis t'achètes un PP, t'achètes quoi en fait? T'achètes un PP coin ou un PP, un rare PP?
Ah bah là, je parle du PP coin. Enfin, je parle du PP coin.
Non, parce que justement, c'était pas clair.
Bah, c'est pas clair, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Tu vois, et c'est pour ça que c'est un peu un prolongement d'une expression artistique aussi. Mais pour revenir un petit peu, tu vois, à tout ce côté de crédibilité, il faut voir, en fait, la crédibilité, c'est des nouvelles générations qui naissent avec ça, qui vivent avec ça, qui vont se développer avec ça. Et moi, je crois plus, et je pense que c'est l'histoire de...
Le thème sur lequel je voulais t'embarquer, John, c'est est-ce que...
Tu me changes de thème toutes les 5 minutes.
Non, je reviens, mais non, mais c'est toi, t'es hors sujet, là je te mets 4, tu vois, par exemple.
Hein?
Là, je te mets 4 sur 20, t'es hors sujet. Le thème, c'est est-ce que, voilà, on va l'appeler crypto-art, parce que c'est ce qu'on a toujours, nous, on l'a toujours appelé comme ça, est-ce que le crypto-art va survivre à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde de la crypto?
Mais évidemment, il n'y a même pas de débat. Évidemment. Moi, c'est... Pour moi, si tu veux, c'est ça. Je te parle de ça depuis le début. Là, tu es dans le bruit.
Est-ce que je te dis... Ouais. L'association, finalement. Pour toi, l'association n'est pas malsaine entre... Je sais pas si c'est le bon mot, d'ailleurs. Mais entre le crypto-art et la spéculation sur les mêmes coins.
Je pense que non, j'ai pas de souci là-dessus, moi, personnellement. C'est comme vouloir distinguer les PFP, comme on l'a fait en 2021, distinguer les PFP du crypto art. C'est, enfin, l'association, tu fais ce que tu veux avec, mais on est, enfin, ça fait partie pour moi d'un mouvement culturel global, et donc ça fait partie de cette base culturelle. Après, il y a des choses, des expressions très différentes. Il y a des expressions très différentes au sein de tout ce mouvement crypto. Mais un, pour prendre ta première question, répondre sur celle-là, est-ce que le crypto art va survivre à tout ça? Oui, mais il survit déjà. Il survit déjà. Xcopy, il a vendu 1 million de pièces la semaine dernière sur Base. Je pense que voilà, c'est ça aussi. Et c'est un peu la synthèse d'ailleurs de ce côté à la fois meme, à la fois une blockchain alternative et à la fois un artiste référent. Xcopy sera là, mais même des artistes. Enfin, tu vois, quand on voit ce bouquin qui est sorti, justement, le Taschen Book, bah, tu as plus de 100 artistes qui sont dedans et t'en as, et, enfin, ils ont tous des carrières d'artistes, ils vivent tous de leur art, enfin, en tout cas pour la plupart. Je dis pas qu'évidemment, je dis pas que tous les artistes vont vivre de leur art, mais tu en as un certain nombre qui déjà, alors que le mouvement, on va dire, a vraiment été révélé il y a 3 ans, tu en as des centaines et des centaines qui vivent de ça.
Non, je suis pas sûr.
De quoi
Alors,
t'es fâché?
franchement, aujourd'hui, je suis pas sûr. Aujourd'hui, en avril 2024, je sais pas combien il y a d'artistes qui vivent, d'artistes vendant uniquement des NFT qui vivent de ça, quoi.
Bah, tu en as une certaine quantité. Je pense que, en effet,
Non, mais t'as pas des centaines et des centaines, c'est clair que
tu
non.
prends ceux du tas. Je sais pas, tu vas prendre des artistes, on va dire, qui ont une certaine renommée. Je sais pas, des artistes, des Ozinashi, des artistes comme, justement, comme Robert Alice, des artistes comme.
Ok, ouais, ça d'accord, mais bon.
Eh bah, tu en as des centaines comme ça.
Ah, oui, mais ça, d'accord, mais non, mais.
Bah, je te parle de ceux-là déjà. Je te parle de ceux qui ont une certaine reconnaissance. Je te parle pas de, tu vois, enfin, je te dis Ozinashi parce
Je
que
fais
Ozinashi.
le pari que tu peux pas m'en citer 100, en fait.
Mais peut-être que je peux pas te les citer, mais je les connais. Enfin, je vais pas te faire ça maintenant, tout de suite dans l'émission. Mais bon. Mais je pense que tu prends déjà les 100 du Taschen Book. Je pense que déjà, je dis pas que les 100 en vivent, mais tu dois avoir une majorité de ce bouquin déjà qui en vivent. Et nous, on connaît. Enfin, je. Et encore une fois, je te dis pas que c'est facile. Mais je te dis pas, mais ça n'a jamais été le cas dans tout mouvement ou dans toute carrière artistique. Évidemment, tu vas faire. Enfin, la plupart des artistes aussi vont mélanger, vont faire des commissions, ils vont bosser des fois pour des boîtes, ils vont faire différentes choses. Mais le mouvement en tant que tel. Enfin, tu vois, je pense que si tu prends les impressionnistes il y a un siècle. Je pense qu'au même moment, tu prends quelques années après que les impressionnistes soient vraiment, enfin, aient commencé à exposer, bah, je pense pas que tu en avais une centaine qui vivaient de leur art. Enfin, tu vois, je vois pas en fait, si tu veux, c'est ça quand je te parle du bruit, et quand tu te projettes, moi je pense que quand tu te projettes, et moi c'est toujours la même chose, c'est toujours la même conviction, si tu veux, que j'ai depuis le début, si tu te projettes à 20 ans, eh bien, l'histoire de l'art passe par le numérique au début du 21e siècle. Le grand mouvement du début du 21e siècle, pour moi, c'est l'art numérique. Et au sein de cet art numérique, bah, les grands artistes de l'art numérique vendent leur œuvre sous forme de NFT. Si tu veux, malgré tout, juste le fait d'avoir des énormes références comme Refik Anadol, comme Beeple, comme. Sam Spratt, comme enfin, d'autres grands noms, si tu veux, qui sont dans cet univers. Déjà aujourd'hui, tu en as. Je ne dis pas que c'est ceux-là qui seront encore cités dans 20 ans, peut-être ou pas, mais si tu veux, je pense vraiment que quand on se concentre sur le phénomène Mincoin en disant là, les volumes dans les NFT sont pas très gros, le crypto art est mort, je pense que. On se fourvoie. Je pense d'ailleurs que c'est évidemment que c'est un phénomène sur lequel c'est plus compliqué parce que tu le mets en comparaison avec 2021, Mais l'anomalie, c'était 2021, encore une fois. Évidemment que c'est pas facile. Enfin, tu vois, je pense que quand tu te lances, c'est pas pour rien, quand tu te lances dans une carrière artistique, oui, bah, ton père et ta mère, ils vont te dire tu veux pas faire médecine plutôt? C'est pas le métier le plus safe de la Terre. C'est pas celui où tu as des revenus garantis le plus simplement possible. Et pourtant, eh ben on est dans un space, et ça j'en suis intimement convaincu, qui offre plus de possibilités que le monde de l'art traditionnel pour les artistes. Et je pense que c'est en effet, ça, mais évidemment dans le nombre, ça reste complexe, mais on est dans un space qui offre des opportunités. On garde, même dans un univers compliqué comme celui-là, tu gardes, tu as quand même encore des gens qui tous les jours collectionne des NFT. Il y en a encore dans cette room ici, qui malgré tout, même si d'ailleurs ils savent que en termes de valeur financière, c'est pas quelque chose qui va forcément s'apprécier, bah le font pour soutenir des artistes, pour supporter, pour l'avoir dans leur collection, pour un ensemble de raisons. Et tout ça, c'est encore une fois, si tu enlèves le bruit, et c'est ça que moi je pense que vraiment on est dans le bruit. On est dans le bruit parce qu'on est connecté tous les jours sur Twitter, on voit tout ce qui se passe. On voit que ça part en cacahuète, on voit la spéculation, et on se dit, ah ouais, non, mais c'est mort. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil de Beeple, c'est toujours ça, NFT Ethereum 2021-2024. Évidemment que c'est comme quand on a fait depuis 3 ans cette room, les NFT sont-ils morts? Pour moi, c'est exactement ce qu'on appelle un bottom signal, d'ailleurs. Mais bon, ça veut dire que. Là, tu vois, quand je vois ça, moi, ça me donne envie d'acheter encore plein de NFT. Et quand je t'entends, ça me convainc encore plus d'acheter encore plus de NFT, tu vois. Parce que je suis intimement persuadé que, en effet, quand tu suis à l'heure, à la semaine, au mois, bah, en effet, c'est pas ouf. Mais à côté de ça, les fondamentaux. Qui sont que les gens vont collectionner leur œuvre sous format numérique grâce à un support qu'on appelle le NFT ou qu'on appellera je ne sais pas comment à l'avenir. Ça, ce fondamental, il ne va pas changer. Le fait que le plus grand de la création artistique aujourd'hui se passe par le numérique, que ce soit les AI, le génératif, la 3D, le glitch, le je ne sais pas quoi, le film, la photo ou ce que tu veux, ça, c'est aussi. Ben, ça ne va pas changer. Donc, sur ce sujet-là, personnellement, j'ai une conviction extrêmement forte. Et en effet, alors peut-être que c'est pas, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément les artistes qu'on a adulés en 2021 qui seront ceux qui resteront dans l'histoire, parce que ce qui fait qu'on reste dans l'histoire, c'est l'histoire qui le décide. Et donc, tu peux pas. Et donc, c'était ça aussi la spéculation de 2021. C'était un pari sur lui, ce sera le plus grand de l'histoire, mais tu peux pas, 3 jours après qu'il ait sorti une œuvre, te dire cette œuvre-là, dans un siècle, tout le monde en parlera. Donc c'est le principe du jeu. Il y a PPRGB avec nous, sur la scène.
Hey, salut.
Yes, ça va?
Ça va, très bien. Juste pour, je voulais juste, j'étais touché par ce que tu dis parce que évidemment, je suis malheureusement pour Rem, je suis plutôt dans le team John sur ce sujet-là et parce que je suis plutôt positif et ça me touche parce que je représente justement, je suis un artiste qui est parti faire du memecoin pour revenir dans l'art quand ce sera un peu plus rangé. Mais le fond, l'idée, c'est quand même pour moi, effectivement, on a souvent tendance à mélanger l'art en soi et le marché de l'art. Je veux dire, le NFT, c'est quand même un marché de l'art. Donc, il ne faut pas se croiser, boucher les yeux non plus, où ben, il s'agit de spéculation, de collection. Oui, on achète un bout d'art des fois parce qu'on aime bien et on n'y touche plus, mais franchement, ce n'est pas la majorité.
Yep.
Donc du coup, l'idée de dire qu'un artiste, on est dans un grand mouvement de tokenisation du monde grâce à Bitcoin, puisque c'est l'invention d'il y a 15 ans, ben, dans ce mouvement-là, l'art, il trouve petit à petit, et tu le décèles bien, jeune, je trouve, et moi j'ai la même idée,
un artiste, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est à se tokeniser et vendre finalement ses œuvres, où ses œuvres sont de toute façon visibles gratuitement. Donc, ce n'est pas le problème. Et les gens vont finalement acheter, comme tu achètes des actions, effectivement. Alors, je ne prendrai pas la boîte que tu prends en exemple, mais je veux dire, tu finalement.
C'est l'orbital.
Quand tu achètes un NFT, depuis le début, les NFT, c'est un peu ça. On a un peu cette idée de supporter l'artiste. Qu'est-ce qu'on fait? On lui achète des tokens. Et ça rejoint le débat des right-click savers, tu sais, en disant ouais, mais ton image, qui d'ailleurs les bitcoiners sont des right-click savers en ce moment parce qu'ils ne comprennent toujours pas le truc. Et j'ai tout un débat, tu vois, j'ai débattu même avec Adam Black, je veux dire, là-dessus, parce que lui, il ne comprend pas les NFT en fait. Le mec, c'est l'OG des OG de Bitcoin, il ne comprend pas les NFT en fait. Parce que. Ils pensent que l'image est la valeur. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte quand on est dans les NFT que l'image, que la valeur, c'est le token. Et pas l'image.
Bien sûr.
Mais... Alors du coup, j'ai expliqué que ouais, si j'ai un token de Punk 4612, même si l'image disparaît, ce qui est peu probable parce qu'elle est copiée des milliards de fois, je veux dire, j'aurai toujours la même valeur. C'est la preuve irréfutable que dans l'art, la valeur, c'est ton token, en fait. Si on sait qu'il y a une œuvre qui est signée, si tu as un token d'un Pascal Boyard, à la limite, l'image, on s'en fout un peu, en fait.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était assez fans de Pac, qui matérialisait ce message un peu dans ses œuvres.
C'est ça, mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison, parce que... On est dans ce mouvement global, effectivement, si tu enlèves le bruit, hein, je suis ton raisonnement, John. Si tu enlèves le bruit, le mouvement global, c'est qu'on tokenise les choses et qu'effectivement, un artiste, plus d'artistes à la fin vont pouvoir vivre s'ils ont un vrai message, une vraie carrière, je dirais. Tu vas acheter leur token parce que du coup, tu sais comme ça, eux, ils peuvent détacher l'argent de leur art, et ils font de l'art, et tout le monde en profite. Et d'un autre côté, on les tokenise. Quoi. Et c'est très bien comme ça.
Je crois. C'est intéressant ce que tu dis. Et je pense qu'on va un peu vers ça, même si...
Ouais,
et
moi là, je trouve.
Et même si, en effet, on va redire la phrase qu'on dit très souvent, « We are so early
». Ouais, non, mais on n'y va pas tout droit. C'est évident. C'est toujours en dents de scie.
Mais
je veux dire, l'idée de dire « Ouais, la spéculation, c'est pas bien, tout ça. » En fait, c'est le moteur qui permettra aux artistes de vivre d'une façon détachée de leur art. Enfin, de pouvoir faire de l'art d'un autre côté. Oui. Donc, moi, je ne vois pas ça en mal, en fait, au contraire.
Non, mais alors moi, je te rejoins un peu là-dessus. Et puis, je pense qu'en effet, de toute façon, la blockchain, bon, il y a un aspect financier dans la blockchain. Hein, c'est une forme de libéralisation financière. Et en effet... c'est une des promesses aussi hein, pour les artistes qui est la financial freedom ou l'autonomie financière. Donc ça rentre dedans. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vagues pour arriver à ce que tu dis, PPRGB. Ça veut dire qu'on l'a vu hein, déjà, il y a plein d'artistes qui ont lancé leur token déjà en 2021, qui étaient des tokens ouais, avec des mécaniques de burn ou des tokens qui permettaient d'accéder ou des social tokens. Là, en effet, ce mouvement Memecoin est une autre manière finalement de référencer hein, le BOM quand même. C'est vraiment ça, c'est un pur hommage. C'est un des tokens qui a le mieux marché. C'est un artiste qui est derrière et c'est une forme de soutien à cet artiste qui est énorme. Même si, en effet, je pense que on est encore dans le bac à sable. Ça veut dire que je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va arriver, comment on va arriver. Tu as différentes formes. Tu as le token pur. Tu as, on va dire, le 101X, qui est un autre mode, finalement, de soutien à l'artiste, qui est, en effet, les éditions en 500, 1000, 10 000. Et tu as, voilà. Et puis, tu as le modèle... T'as une coexistence de plusieurs modèles, ce qui est aussi compliqué pour les artistes d'ailleurs, hein, parce que tu vois, si tu veux avoir un peu ce travail de cohérence et de narratif, des fois, ça pose une certaine complexité, parce que je pense que t'as beaucoup d'artistes qui disent « si je lance un token, mes collectionneurs ne vont pas comprendre ». Ils vont se dire « attends… »
Oui, c'est le mélange des mondes, c'est la transformation du monde, puisque vendre un 1-1 ou une série de 10, c'est quand même le vieux monde, c'est-à-dire c'est un effet galerie, tu vends un 1-1, tu vends un… une série numérotée, on vient de là.
Ouais, mais quand tu regardes les grands collectionneurs, le moderne, tu vois, tu regardes
le basket.
tu regardes les grands collectionneurs, genre bah, tu regardes Pablo, justement, Frail, qui est un collectionneur un peu historique, lui va jurer que par ça maintenant, tu vois, par le narratif,
moi,
les 1-1, les 1-5, tu vois, il va un peu décrier les artistes qui vont faire du volume, quoi, finalement.
Mm.
Donc le marché, il y a une sorte d'attente, même un retour de flamme de la part de pas mal de collectionneurs.
Mais tu crois pas que c'est les collectionneurs classiques qui décrivent ça, qui veulent
moi je crois que c'est les collectionneurs quoi. Bah, je pense que tu le trouves. Non, mais même là d'ailleurs dans tout ce mouvement REM, je pense que tu n'as pas trop suivi, mais là depuis 3 semaines, tu as beaucoup de ventes de 1-1 qui ont lieu. Tu as beaucoup de, enfin tu vois, même les Trevor Jones justement dont on parle, ou les d'autres artistes, moi j'ai eu beaucoup de gros artistes un petit peu là qui reprenaient un peu des couleurs sur leur 1-1, et je pense que c'est aussi lié justement, et je pense qu'il y a un effet vase communicant d'ailleurs avec les cryptos et avec les, enfin, qui sont liés à l'enrichissement lié à la spéculation, qui font qu'à un moment donné des gens s'achètent un 1-1. Et malgré tout, je pense qu'en tant que collectionneur, tu seras, enfin, t'as quand même, je pense que c'est encore difficile de sortir des fondamentaux du collectionneur, qui est de se dire, mon 1-1, je sais que... Même, je sais que quoi qu'il arrive, il aura une valeur et une cote plus importante qu'un produit dilué, quoi.
Donc, oui, bien sûr. Mais je pense qu'on aura le monde est fait de multitudes, hein, mais je pense qu'on aura toujours des collectionneurs classiques avec des artistes classiques qui vendent du 1-1 en NFT qui sert d'un certificat. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus moderne culturellement, qui est la tokenisation d'un artiste, en fait, qui permet de diffuser ce qu'un artiste qui est bon, de diffuser à loisir, gratuitement, ce qu'il fait, et d'un autre côté, de vivre de la finance. Il se financiarise lui-même.
Non, mais c'est
un peu le futur, quoi, en fait. Un des futurs. En fait.
C'est un futur, mais c'est vrai que c'est...
Mais pas le seul.
Mais ce que je disais un peu au début, c'est que le problème pour les... Tu vois, t'as le soutien de l'artiste, et c'est une bonne chose. Après, t'as un problème économique pour le collectionneur, quand même, qui est que tous ces modèles-là de financiarisation, de tokenisation, de titrisation, d'open édition, enfin, tout ce produit de masse, si tu veux, en termes de valeur, va tendre vers zéro quand même à un moment T. Et donc, en tant qu'investisseur collectionneur, parce que quand tu collectionnes, t'es quand même, tu vois, t'as plutôt envie d'être dans des assets qui se maintiennent, voire qui s'évaluent.
Ah ben, t'es investisseur, parce que c'est le but aussi.
T'es un investisseur. C'est ça. Et donc, tu vois, le marché, pour l'instant, valide plutôt les 1-1 et les 1-10 ou 1-5, plutôt que les éditions ou les tokens qui, eux, vont plutôt se fracasser, quoi, à un moment T.
Donc, oui, mais tu vois ce qui sort en même coin, quoi. Voilà. On n'est pas encore aux artistes qui sérieusement se tokenisent, c'est-à-dire sérieusement.
T'avais eu des modèles, enfin, tu vois, t'as quand même...
Oui, il y a quelques essais, mais il faudrait que ce soit un mouvement, je pense.
Et moi, je compare ça un peu aux open editions, parce que malgré tout, c'est une forme de tokenisation aussi.
À quand l'ETF avec du boyard, du, du pack et du... Non, mais voilà, on parle de ça. Hein.
Je pense que ouais, à ce moment-là, il y aura peut-être des choses, mais c'est vrai que c'est...
Mais le 1-1 ne disparaîtra pas, je rassure Rem, parce que... il va flipper, sinon.
Non, mais moi, je dis pas que c'est... Enfin, c'est avec moi, en tant que collectionneur, j'aurais tendance aussi à être plus rassuré par du 1-1. Après, je ne peux pas me les payer. Donc, je vais plutôt prendre des éditions, tu vois. Mais à la base, le 1-1 va peut-être être plus rassurant. Même s'il n'est pas liquide, même si c'est un autre produit. Enfin, voilà.
Rêve, moi, je trouve que Xcopy qui vend 1 million, c'est un signe quand même d'un truc futur, quoi.
Bah, Xcopy qui vend 1 million, on est complètement là-dedans. Tu vois, c'est... Enfin, moi, on n'appelle pas ça...
Une preuve, on n'appelle
pas ça... Enfin, REM, c'est pas un meme coin, mais pour moi, c'est la même chose, quoi.
C'est un meme coin, c'est pareil, ouais.
C'est la même sauce. On a, tu vois, tu vends 1 million de tokens.
Ouais.
C'est 1 million de tokens avec une image. De toute façon, le truc s'appelle Fly, en plus. Donc, les gens se sont dit Fly to the moon, quoi.
Ouais. C'est clair, hein. C'est clair. Et vraiment, les deux mondes sont possibles. Et c'est pour ça, pour revenir à Tezos, justement, pour l'instant, ça n'a pas fait. Pourquoi on ne fait pas de Tezos? C'est parce qu'un artiste ne vit pas, en tout cas européen, ne vit pas avec ça, parce que ce n'est pas assez cher. Mais, c'est pas, mais je veux dire, artistiquement, tout le monde est d'accord, je crois, pour dire que ces multi-éditions et tous ces petits artistes, et, je veux dire, là où il y a plus d'attrait artistique, c'est quand même sur Tezos. Quoi.
Mais c'est génial. Enfin, honnêtement, sur Tezos, c'est magique, sur Tezos, tout le monde est d'accord. Quoi. Ouais,
voilà, mais c'est pas sur Objet.com. Tu dis oh là là, mais artistiquement, c'est digital, hein, en digital, c'est au-dessus de. Il y a beaucoup plus d'idées qui foisonnent là-dedans parce que les gens vendent des séries à 2 balles. Mais je veux dire, ça multiplié par les gens qui devraient arriver dans ce monde, ça peut le faire. Ça peut
ouais, le faire. Non, mais sur le constat, je suis d'accord sur la démocratisation, l'accessibilité.
Ouais, voilà.
À terme, je suis 100% d'accord.
Mais culturellement, voilà. On n'y est pas. Ça, on est loin même.
Ouais, ouais, mais et je suis d'accord, assez d'accord avec toi sur le rapprochement entre ce mouvement-là et celui des mêmes coins. Mais
ouais, c'est un trait de plus. Le prochain, on le connaît pas, mais il sera encore plus près, peut-être.
Alors, qu'est-ce que t'en penses, Rem? Rem, il va faire un ouais.
Non, non, mais je...
Ouais.
Je suis sur le fait que. C'est un mouvement qui, enfin, que certains des artistes d'aujourd'hui, ben, évidemment, auront leur place dans les livres d'histoire, etc. Tout ça, on en est convaincu, toi et moi, tu vois, il y a même pas débat. Après, je pense que, pour ma part, en tout cas, je pense qu'il y a un problème il y a un gros problème de pédagogie, en fait, pour expliquer justement toutes ces spécificités culturelles. Que nous on arrive à voir en fait les petites subtilités, mais je pense que vu de l'extérieur c'est beaucoup plus complexe, tu vois, voir de l'art dans les mêmes coins, nous ça nous semble pas évident, mais ça on peut comprendre, tu vois, mais pour quelqu'un de normal pas du tout.
Ouais.
Et je pense qu'il y a un gros problème de pédagogie, en fait. De pédagogie.
Mais là, on est d'accord, Rem, il n'y a pas vraiment d'art dans les mêmes coins aujourd'hui.
Non, mais on peut trouver une forme de.
Ouais,
on peut trouver une forme d'art.
Non, là, c'est du grid pur, hein. C'est pas du tout. Hein. Non, j'extrapolais en disant quand un artiste va se vendre, va se tokeniser, on va pas regarder l'art de son token. On va regarder son token d'un côté, sa valeur. Est-ce qu'il se produit?
Oui, mais d'accord, mais va expliquer ça à ma grande tante Janine. Tu vois, elle s'en bat les reins.
Ouais, mais Rem.
Ouais, elle le verra pas, elle.
En fait, je vais te dire, Rem, honnêtement, je pense qu'on s'en bat les couilles de ta grande tante Janine.
Non, mais elle le verra pas. Et moi,
non, mais ce que je veux dire.
Non, mais moi, c'est ça, c'est mon point, Rem.
Bon, alors, ma petite cousine.
Alors, elle le verra.
Non, mais en fait, je pense que
quand elle le verra, tant qu'elle ne le comprendra pas, même si, enfin, elle ne va pas. C'est ça aussi le souci, c'est qu'il y a un problème de compréhension de cet univers-là, et je pense que c'est de plus en plus opaque, en fait. Et donc.
Non, mais en fait, je comprends ton propos, Rem. Ce que tu veux dire, c'est que la dernière mode avec ces meme coins ne va pas dans le sens de la démocratisation.
Bah ça on est bien d'accord.
Pourquoi
De l'adoption tu veux dire?
Bah de l'adoption ouais.
Ouais mais ça c'est l'inertie culturelle, c'est long. C'est pas...
Bah en fait moi je suis assez d'accord avec... je suis d'accord avec vous deux, je suis d'accord avec toi Rem. Je pense qu'on n'est clairement pas dans une phase qui va favoriser la méga adoption. Même
ça,
si
c'est Michelin qui fait ça.
Non alors il y a une adoption, mais une adoption de bros qui vont vouloir faire du fric sur de la crypto, tu vois, en dépensant 10 euros, pensant faire 1000 euros derrière, tu vois. Mais c'est pas ces gens-là qui nous intéressent. Enfin, si on revient sur le sujet qui est l'art aujourd'hui, tu vois, ces personnes-là vont pas, les 1000 euros, ils vont pas prendre 10 ou 20% ou 30% de leurs gains pour aller acheter de l'art derrière.
Bah, moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Je pense que, tu vois, je l'ai déjà dit, mais tu as une nouvelle activité financière. Tu as une révolution de la finance. Et en fait, tes crypto-bros, pour moi, c'est juste des gens qui, au lieu de finir dans une banque, vont finir dans le monde crypto.
Ils auront des bases. Et quand tu as des bases, tu finis sur machin et tu achètes un petit bout de. Ou tu auras des Tezos parce que tu auras des. Enfin, peu importe. Tu es dans la crypto, tu as raison.
Bah
Tu rentres
ouais,
dans
et
la
en fait,
crypto, tu finis par acheter de l'art.
et ce que je veux dire, c'est quand même, enfin, moi je connais beaucoup de gros collectionneurs d'art, bah leur background, c'est la banque aujourd'hui. Donc, tu vois, avant de, tu vois, si tu veux, c'est. Faut pas se leurrer sur le marché de l'art, tu vois, qui est idéalisé. Le marché de l'art, ça reste beaucoup de grands collectionneurs d'art sont venus à l'art aussi au nom de la diversification des assets financiers. En se disant, j'ai fait de l'argent, j'ai de l'immobilier, je vais me mettre sur des assets qui présentent un intérêt. Et puis en plus, bon, bah, l'art, t'as une cerise sur le gâteau. T'as une cerise sur le gâteau, bah,
C'est que t'as une fiscalité avantageuse.
t'as une fiscalité, mais t'as
Non, mais t'as un truc
aussi.
dans ton salon qui est joli, quoi.
Non, mais c'est voilà, c'est beaucoup plus
Non,
valorisant,
mais.
si tu veux. C'est plus valorisant de dire je possède je possède un Magritte que je possède 1 million d'actions d'ArcelorMittal, tu vois. Donc, si tu veux, c'est quand même, voilà, au-delà de l'aspect financier, je pense qu'au niveau de l'ego, c'est un peu mieux, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, ces nouveaux profils qui arrivent dans ces nouveaux profils-là, ces crypto-bros, moi, en fait, je suis contre l'ostracisation des crypto-bros. Je pense que c'est, tu vois, regarde, tu as des gens qui, tu vois, regarde OSF, c'est un des symboles des gars qui font des coups sur les meme tokens, c'est une référence, il va acheter du WIF, il va revendre. Le mec, il vend des Fidantia pour acheter du WIF, il va racheter des Fidantia derrière. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est. Enfin, y a quand même des ponts entre ces assets, tu vois, et des mouvements d'argent. Et donc, je dis pas que tous les gars vont se mettre dans l'art, mais moi, je suis persuadé. Tu le vois déjà sur les CryptoPunks. Moi, je suis les CryptoPunks. Tu as ce côté-là. À un moment, quand les gens font des profits, bah, ils s'achètent un CryptoPunk. Et donc, tu vois, ils ont l'impression de pérenniser un peu leur trading sur quelque chose qui est plus long terme. Donc,
En gros, l'idée aujourd'hui, Rem, c'est de faire rentrer les gens dans la crypto. Même si c'est par du shitcoin où tu mets 10 balles. Parce qu'en fait, le shitcoin, moi, je le défendais culturellement. On en a parlé déjà. Comment, la Française des jeux décentralisée. C'est-à-dire, si tu vas dans une maison de la presse aujourd'hui, tu restes 1 heure, dans la campagne ou même à Paris, j'imagine, tu restes 1 heure et tu hallucines de voir le nombre de gens qui viennent foutre 20 à 100 balles dans des grattages où ils paument, tu vois. Le shitcoin, c'est un peu la décentralisation de ça. C'est-à-dire que les gens, ils
c'est le
arrivent dans
tac au
leur
tac,
ouverture.
c'est le tac au tac, le
Ouais,
tac au tac décentralisé,
j'adore jouer à ça. Mais qu'est-ce
le
qui se passe?
bingo.
C'est que tu attires des gens dans la crypto. Et une fois qu'ils sont dans la crypto, qu'ils ont des wallets et qu'ils gagnent un peu de thunes, une des possibilités d'utiliser cette crypto, c'est de payer des petits bouts d'art, de se prendre des trucs à 3 balles pour des petits artistes. Et moi, j'appelle ça de la démocratisation. Ça va être long, mais je trouve que ça va dans le bon sens.
Non, mais
Bizarrement.
après, Rem a raison. Évidemment que si tu as d'autres moyens d'onboarder les gens, c'est mieux. C'est un moyen.
Ouais,
C'est
mais
un
on
moyen.
n'aborde jamais avec des trucs à QI de 200, quoi. C'est toujours des trucs bourrins, quoi, dans la vraie
Ouais,
vie.
non, non, mais moi je pense qu'en effet, c'est l'appât du gain qui fait venir. C'était un peu la phrase, come for the money, stay for the art, ou
Ah, le grip, c'est quand même le truc, quoi.
come for
Enfin,
the
t'as
money, stay
beau.
for the community, whatever, tu vois.
Ouais.
Mais en effet, je pense que les gens viennent pour l'argent et restent parce qu'ils trouvent quelque chose d'autre. Et
Moi aussi, je crois.
après, tu auras d'autres choses. Et je suis d'accord, Rem, c'est pas le truc le plus luisant, peut-être. Et je suis d'accord avec toi, mais c'est un point, c'est le point du moment, de l'année 2024 à l'heure actuelle. Parce que pour l'instant, si tu veux, je pense que les autres univers qu'on attend pour onboarder les gens sont pas encore au niveau de maturité. Qui va arriver à un moment T. Tu vois, quand on parle du gaming, oui, à un moment T, le gaming va onboarder du monde. Est-ce que c'est cette année ou est-ce que c'est dans 5 ans? J'en ai aucune idée. À un moment T, le sport va onboarder du monde. À un moment T, le ticketing va onboarder du monde. Mais tout ça, tout ça, bah voilà, ça met du temps. Il faut qu'il y ait le bon shift, il faut qu'il y ait le bon produit, les bonnes personnes, le bon moment. Donc,
pour l'instant, on fait rentrer du monde avec du shitcoining, et puis c'est tout.
non, mais c'est ce que je veux dire. Et honnêtement, je te dis ça, mais moi, je te comprends à 200%. Moi, je ne comprends rien au shitcoin. J'arrive pas. Enfin, tu vois, c'est pas un produit.
C'est un jeu de grattage.
C'est pas un produit pour moi, tu vois. C'est pas un produit pour moi. Je suis pas capable de faire. En effet, tu vois, moi, je pense que si t'es pas, enfin, je parle vraiment. Quand tu rationalises un petit peu le truc et que tu veux gagner, enfin, tu veux jouer à ce jeu, bah voilà, soit t'es étudiant et t'as que ça à faire toute la journée de regarder ce qui se passe et puis d'acheter, de revendre des shitcoins et que t'es dans le truc. Moi, c'est pas fait pour moi.
Mais d'un autre côté, hein, des étudiants, beaucoup de Chinois, mais j'ai 30 000 étudiants là qui jouent. Quoi.
C'est 30 000 étudiants chinois ta communauté,
ça m'étonne mais pas. À 95%, c'est ça.
Ouais.
C'est pour ça que on parle de ça. C'est ça qui est nouveau. C'est vraiment la française des jeux décentralisés. Les gamins, ils jouent là, ils gagnent 10 sous en plus. Mais ils jouent quoi. Avec bon. 200 plus.
Je lis un petit peu les commentaires aussi. Tac, 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 bah, t'es là, PPRGB. Metafrogi qui dit, et inversement depuis art web 3 vers art web 2. Et aussi, ouais. Mais aussi d'ailleurs, moi je suis persuadé, et faut se dire, moi j'en ai marre en fait qu'on se présente comme des dégénérés qui veulent se mettre en costume pour rentrer dans les musées. Je veux dire, à la fin de l'histoire, c'est les institutions, c'est les galeries qui vont courir après les dégénérés, qui vont s'habiller en dégénérés pour rentrer dans le mouvement. Et ça, j'en suis persuadé. À la fin de l'histoire, un mouvement culturel, tu l'adoptes, mais c'est pas, ça sert à rien d'essayer de vouloir ressembler à quelqu'un pour pouvoir rentrer quelque part. Évidemment, le mouvement va évoluer, il va peut-être s'institutionnaliser d'une manière ou d'une autre, mais si tu veux, voilà, ce travail de vouloir rentrer, il se fait pas de toute façon. Il va se faire uniquement par les collectionneurs, tu vois, il se fait uniquement par le fait que des institutions à un moment T ont besoin de se renouveler, ont besoin de renouveler leur base de collectionneurs, ont besoin d'être au goût du jour, ont besoin de se refaire un marché, ont besoin de se faire de l'argent, et donc ils vont aller chercher l'argent où il est. C'est pour rien que Sotheby's et Christie's restent à fond là-dedans. Moi, ça m'étonnerait pas, tu verras demain, Rem. Moi, je suis persuadé que Sotheby's pourrait faire une vente de même coin. Et valider ça.
Oui, ils m'ont contacté. Non, je déconne.
non, mais moi, ça m'étonnerait pas. C'est un marché. C'est un marché. Et donc, ces maisons d'enchères, en effet, bon, bah, c'est leur taf de vendre. Mais derrière les maisons d'enchères, tu as les galeries. Derrière les maisons d'enchères, tu as les institutions. Et tout ce monde-là, je ne dis pas que c'est l'intégralité de ce monde-là, mais c'est comme toutes les transformations. Tu as des acteurs qui vont adopter le mouvement, mais avec le temps, les nouveaux acteurs qui vont émerger vont créer des business models qui reposent finalement sur ce digital, sur ces nouveaux artistes, sur ce nouveau mouvement.
Je le dis souvent, mais John, il est trop fort en analyse.
Merci. Tu vois, j'ai un fan. Je vais t'amener non, à chaque mais... fois sur scène.
Je vais t'amener à chaque fois sur scène. Je parle au nom de la plupart des gens qui écoutent le ST Morning tous les jours. Pourquoi il reste ? C'est pour les analyses, je dirais, plutôt bien fondées. De John et la contre-réaction de Rem qui vient le titiller ou rêver. Ça dépend des
autres. C'est ça. Rem, il me met des notes après, tu vois.
Ouais.
Bon, Rem, écoute.
Là, je te mets 12 pour le style et 5 pour le fond.
Putain, je me suis fait casser au deuxième trimestre, là. Bon, j'essaie de me rattraper le trimestre prochain. Mais
évidemment, dans le flow de tout ce que tu as dit, il y a des trucs vrais, tu vois, il y a des trucs justes, et puis il y a de la merde. Mais on va. Que Sotheby's vende des mêmes coins, c'est de la merde, tu vois. Que
ah bah attends,
ça passe
clair. Ça, on va rigoler, quoi, Rem, mois, Rem, mais on regarde. Va trop rigoler, quoi.
Ah ouais.
Ah ouais. Et moi, je reviens ce jour-là, Rem.
Ok.
Tu sais quoi, je vais envoyer un message tout de suite à Sotheby's.
Parce que déjà, je pense qu'en termes de.
Well, même coin.
Voilà, de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils ont la possibilité de faire ou pas, de régulation, etc. Je pense que. Voilà, je pense que c'est un peu surréaliste, quoi.
Peut-être que je m'enflamme. je pense que ça titille l'esprit de certains chez Sotheby's.
Déjà, Sotheby's se sont un peu fait tirer les oreilles par la SEC quand ils ont fait une vente de Bored Ape, donc vendre des meme coins.
C'est peut-être un peu challenging, je suis d'accord. Mais je pense que l'environnement réglementaire est peut-être un peu compliqué pour eux là-dessus.
Voilà, on va dire ça. Par contre, que ça passe par les collectionneurs, bah, évidemment. Oui, évidemment. Et ça, j'en suis plus que certain.
Écoute, alors ils vont peut-être pas le faire, mais qu'ils fassent une vente Lyon Memcoin, ça m'étonnerait pas.
Bah, le jour ou pas qu'il fait un Memcoin qui s'appelle Pack, à mon avis, Rem, il en achète.
Ouais, on a déjà les H. On a déjà les H.
Non, mais ça s'appelait H, ça s'appelait autrement, mais je veux dire, un pur Memcoin qui dit, bah voilà, c'est ma.
Non, moi, c'est moi, je veux plus rien avoir avec Pack. Je veux qu'il me rende mon oseille, c'est tout.
Ah oui. Ouais, mais c'était un précurseur, c'est pour ça. Mais...
Ouais.
Tiens, attends, il y a quelqu'un qui a partagé pas un même coin de Sotheby's, mais pas loin quand même. C'est Teto qui a partagé ça. Tu vois. Et c'est quoi Bitcoin Shrooms, un Ordinals. Ah oui, quand ils ont vendu l'Ordinals Auction sur les Bitcoin Shrooms.
C'est vrai.
Ah ouais.
Pas loin, hein.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est un mouvement culturel, donc forcément, t'as raison, John. Les institutions, elles vont venir avec un décalage immense. Ce qui est normal, c'est très bien. Sur ces trucs-là, c'est eux qui vont venir. C'est pas à nous d'aller les chercher. T'as raison.
Bon, écoutez, en tout cas, voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais, clairement.
NFT
is dead. Voilà, exactement. Et donc, eh ben, rendez-vous demain pour parler à nouveau de NFT.
C'est bien. Demain, on a un vrai projet, tu vois.
Demain, on a le projet Neopolis.
Voilà,
un vrai projet. Et puis, on va aussi parler un peu, revenir un peu sur la room, sur l'AI avec Decrypt.
Oui, parce qu'il y a une suite, en fait, au
drame de la BBC.
Ouais, alors là, on a passé un cap. Mais bon, vous verrez demain avec Samy.
Exactement. Et bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour cette room qui était un peu improvisée, mais finalement...
Ça s'est senti quand même.
Sur laquelle on avait quand même pas mal de choses à dire. Et donc, eh bien, merci PPRGB, merci Rem. On se retrouve demain à 9h pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien, faites attention avec les meme coins et good morning.
Good morning.
Happy.
Good morning.
Really happy.
Good morning.
With you.
Bad, bad, bad
happy.
Morning.
Really happy.
Morning.